Vous écoutez RTL.
Il est midi et demi.
RTL Midi.
Le 12-30, Christelle Robière.
Bonjour à tous, bienvenue dans RTL Midi. Et en ce jeudi 14 février, Alain Juppé quitte la mairie de Bordeaux et refoule ses larmes.
Quitter cet hôtel de ville est pour moi, évidemment, un crève-cœur.
Il devient un sage et va siéger durant les 9 prochaines années au Conseil constitutionnel. La vie publique est difficile, reconnaît-il. Emmanuel Macron à Gargilès-Dampierre dans l'Indre, c'est l'un des plus beaux villages de France, mais il ne joue pas les touristes, il anime son 7e grand débat avec les maires. Dans RTL Midi aussi, une réussite technologique mais un échec commercial. L'Airbus A380, le géant des airs, ne sera plus fabriqué dans 2 ans. Renault, le dernier bilan de Carlos Ghosn, le bénéfice net du groupe a chuté de 37%, plombé par Nissan. Un aide-soignant qui gifle et insulte une femme de 98 ans dont il est censé s'occuper. Il est en garde à vue à Arcueil, mais cette nouvelle maltraitance illustre une fois de plus le traitement parfois indigne réservé à nos aînés. La météo, bonjour Patricia Charbonnier.
Bonjour.
Et en cette Saint-Valentin, c'est l'amour parfait avec le soleil.
Ah, la météo est radieuse cet après-midi, du plein soleil du nord jusqu'au sud, avec simplement le vent marin qui apporte un petit peu de grisaille près du golfe du Lion, puis les températures qui grimpent. On est bien au-dessus des normales de saison, avec 12 degrés cet après-midi à Lille, 13 degrés à Brest, à Paris comme à La Rochelle, 15 degrés à Lyon et Marseille et 18 à Biarritz.
La question du jour qui est très appropriée, fêtez-vous la Saint-Valentin? Eh bien vous dites non, un grand non à 72%, 24% de oui. On attend vos appels au 3210. Bonjour Pascal Praud, je vous sens désolé.
Ah oui, je remballe, je pensais qu'on allait en parler, donc si personne célèbre ça, je suis un petit peu déçu. Justement, quel est votre programme ce soir? Quel cadeau allez-vous offrir? Quelle est votre chanson d'amour préférée? Cette fête est-elle au contraire trop commerciale peut-être pour vous? Vous pourrez intervenir tout à l'heure, et puis Alain Juppé, bien évidemment, il incarne l'homme politique du XXe siècle, qui est quand même un peu en voie de disparition. On en parlera entre 13h et 14h.
Au 32-10, RTL vous donne la parole.
50 centimes la minute.
C'est une page de sa vie qui se tourne et aussi celle d'une certaine idée de la politique. Alain Juppé, les larmes aux yeux, a officiellement annoncé son départ ce matin de la mairie de Bordeaux. L'ancien Premier ministre, fondateur de l'UMP, maire de Bordeaux depuis 21 ans, part pour 9 ans au Conseil constitutionnel. Il quitte l'arène politique pour les tentures feutrées du Palais Royal. C'est un crève-cœur, a-t-il dit. Et il a aussi justifié son départ par le climat ambiant, Philippe de Maria.
Exactement. Oui, Alain Juppé prend la parole dans un salon d'apparat de l'hôtel de ville où il a donné des dizaines de discours entouré d'élus, de membres du personnel de la mairie. La voix est prise par l'émotion, il s'interrompt puis reprend son choix. Il le motive notamment par la peur du mandat de trop, mais aussi par l'ambiance sombre de la société française actuellement.
J'avais tant de projets en tête, mais je sens aussi le besoin de renouvellement qui monte ici et là. J'ai aussi une raison plus personnelle. La vie politique est comme toujours un combat. J'ai aimé livrer ce combat. L'esprit public est devenu délétère. La montée de la violence sous toutes ses formes, verbales et physiques, le discrédit des hommes et des femmes politiques réputés tous pourris. Dans ce climat général, infecté par les mensonges et les haines que véhiculent les réseaux sociaux, l'esprit public, la vie publique, sont difficiles à vivre et lourdes à porter.
Alors Juppé souhaite bon vent à sa ville, c'est pour lui un arrachement. Il ne désigne pas de dauphin, mais ne rejette pas l'idée d'une candidature parachutée. Il mettra fin à ses fonctions début mars et il n'aura pas le temps de donner une consigne de vote pour les européennes.
Philippe de Maria en direct de Bordeaux pour RTL. Emmanuel Macron sur les traces de Georges Sand. Le président épris de littérature est à Gargilès-Dampierre dans le Berry pour son 7e grand débat avec les maires qui doit démarrer dans les prochaines minutes. Le chef de l'État, sans doute rasséréné par ce sondage élargi, près de 3 mois jour pour jour après le début du mouvement des Gilets jaunes, 56% des Français estiment que la mobilisation devrait s'arrêter. Pour la première fois, l'opinion se retourne, en particulier dans les classes moyennes. Écoutez la réaction de Chantal Perrotin, l'une des figures du mouvement dans la région Auvergne-Rhône-Alpes.
Je peux le comprendre. Il y a la lassitude encouragée par ce gouvernement qui n'a rien lâché. Enfin, en ce qui me concerne, moi je suis un petit peu dégoûtée. Parce que 2 mois de mobilisation pour rien, pour que Macron tienne son cap, là on va se reprendre. Pour l'instant, on va laisser passer un petit peu de temps, mais qu'on ne peut pas lâcher comme ça, quoi. Puis ce pouvoir d'achat nous plombe encore, et on est dans un moment de flottement total. Moi je pense qu'on est au point mort, mais qu'on va rebondir. Je l'espère de tout cœur.
Chantal Perrotin avec Émilie Beaujard. Une cérémonie inédite aux Invalides. Renaud Muselier, le président Les Républicains de la région PACA, avait lancé, vous vous en souvenez, une cagnotte en faveur des policiers blessés lors des manifestations de ces dernières semaines. Eh bien, il a remis symboliquement la somme de près d'1,5 million d'euros en présence de Christophe Castaner, le ministre de l'Intérieur. On sent, Olivier Bois, qu'ils ont voulu marquer le coup.
Oui, effectivement, cérémonie assez solennelle avec donc Renaud Muselier, président de la région PACA, qui a rappelé comment l'idée lui était venue après la création, vous vous souvenez, de cette cagnotte en soutien au boxeur Christophe Détinger, condamné justement hier pour avoir frappé des gendarmes.
Quand la cagnotte, pour aider le boxeur, mon sang n'a fait qu'un tour, j'ai décidé de faire la même chose, avec une crainte, c'est de ne pas être suivi.
Et suivi, il a été, hein, puisque 51 000 donateurs ont fait des dons, près d'1,5 million d'euros recueillis. Le ministre de l'Intérieur, Christophe Castaner, a lui aussi, ce matin, fait référence au boxeur Détinger.
Nous vivons quand même une période bien étrange où quelques-uns veulent faire croire que ceux qui cassent sont des héros et ceux qui protègent seraient des salauds. Les Français sont du côté des forces de l'ordre, pas du côté des brutes. À la cagnotte de la honte, vous avez porté la cagnotte de l'honneur.
Et maintenant, les dossiers des 1300 policiers gendarmes blessés depuis le début du mouvement des Gilets jaunes vont être instruits. Les sommes seront réparties en fonction de la gravité des blessures.
Quant à l'autre cagnotte à laquelle vous faisiez allusion il y a quelques minutes, celle en faveur de l'ancien boxeur Christophe Détinger, eh bien, l'avocate de ce dernier va assigner Litchi en justice pour débloquer les 145 000 euros récoltés. L'homme a été condamné hier à 1 an de prison ferme pour avoir violemment frappé 2 gendarmes. Sa peine est aménageable en semi-liberté. Christophe Castaner a fait le point ce matin. Environ 8400 personnes ont été arrêtées depuis le début du mouvement des Gilets jaunes et 7500 placées en garde à vue. Paris a souffert en décembre de la contestation, mais la fréquentation touristique a tout de même battu un record en 2018, 35 millions de visiteurs dans toute la région parisienne et pour la première fois, plus d'étrangers que de Français. Dans un instant, les derniers résultats de Carlos Ghosn chez Renault.
RTL Midi.
Avec Christelle Rebière.
Il y avait un grand absent ce matin à l'annonce des résultats de Renault. Carlos Ghosn, le constructeur français, subit une chute de 37% de son bénéfice net à 3,3 milliards d'euros. On va y venir dans les détails, Christophe Bourroux. Mais c'est surtout la fin de l'ère Ghosn.
Oui, car ici, au siège de Renault à Boulogne-Billancourt, c'est la première fois depuis une dizaine d'années que Carlos Ghosn ne donne pas les résultats financiers du groupe. C'est donc Thierry Bolloré, l'actuel directeur général, qui s'est présenté tout à l'heure face à la presse et aux analystes pour dresser le bilan 2018 en donnant sa toute première réaction sur Carlos Ghosn.
C'est un choc énorme pour toute l'entreprise, pour toute l'alliance. C'est un choc encore plus intense, manifestement, pour nos amis de chez Nissan. Leur mission, c'est de continuer au bénéfice de l'ensemble des clients, du personnel et de l'alliance. Donc, si vous voulez, notre focalisation n'est pas émotionnelle. Notre focalisation, elle est centrée sur la continuité de l'œuvre. Toutes les personnes que vous voyez ici sont toutes des personnes qui ont travaillé pendant, pour certaines, 20 ans avec M. Ghosn. 20 ans d'aventure, de croissance, d'une telle originalité, d'une telle singularité dans le monde automobile, c'est quelque chose qui nous marque tous.
Et c'est Nissan qui plombe le résultat du groupe, Christophe.
Oui, avec un chiffre frappant. L'an dernier, la contribution de Nissan a baissé de près de moitié à 1,5 milliard d'euros. La marque japonaise connaît des difficultés sur plusieurs marchés, comme aux États-Unis, ce qui plombe les résultats nets en recul de 37% et de 2,3% pour le chiffre d'affaires. En revanche, tout roule pour Renault, qui malgré une légère baisse, a maintenu une très bonne performance. D'ailleurs, les ventes atteignent des records avec 3,9 millions de véhicules vendus l'an dernier.
Christophe Bourroux, en direct du siège de Renault. Après le Concorde, l'Airbus A380, ce bijou de technologie mastodonte des airs qui peut transporter jusqu'à 800 passagers, ne sera plus fabriqué après 2021. Airbus a annoncé ce matin la fin de sa production, alors que l'avion n'a que 12 ans. En fait, comme pour le Concorde, Pierre-Julien, même s'il séduit les passagers, eh bien c'est un échec commercial.
Eh oui, Christelle, rappelez-vous, dès 2005, Airbus a été confronté par des problèmes de fabrication, notamment le câblage trop court côté allemand, les retards de livraison se sont accumulés, 18 mois par exemple, pour Singapore Airlines. Mais surtout, alors que le public a adopté le Super Jumbo pour son confort, son silence, en revanche, les compagnies aériennes ont été déçues par sa rentabilité. 4 réacteurs, encore un peu trop gourmands en carburant pour en gros 500 passagers transportés. Airbus attendait aussi de multiples commandes, chinoises notamment, et seul China Southern a signé pour 5 exemplaires, pas plus. Tom Enders, le patron du constructeur européen, a donc dû se résigner. Il l'a reconnu ce matin en conférence de presse.
J'ai employé le mot douloureux car c'est vrai que ça a été difficile de prendre cette décision. Mais dans le business, on ne s'appuie pas sur des sentiments, mais sur des faits. Et la réduction de la dernière commande d'Emirates nous amène à ne pas poursuivre la production au-delà de 2021. C'est la fin de notre gros quadri-reactor, un fantastique avion arrivé peut-être trop tard.
Ouais, trop tard ou trop tôt, car aujourd'hui, comme pour Boeing et ses 777 et 787, le succès de l'Airbus A350, bel héritier technologique, est indéniable. Peut-être que dans 10 ans, un hyper gros porteur sera nécessaire. En attendant, vous pouvez toujours voler à bord des A380. Il y en a aujourd'hui 230 en service pour encore une bonne vingtaine d'années.
Et avec nous pour aller plus loin, Françoise Valin, coordinatrice CFE-CGC d'Airbus. Bonjour.
Bonjour.
Vous vous attendiez à cette annonce, vous étiez prévenu, c'était dans l'air depuis plusieurs semaines, mais comment l'avez-vous ressenti ?
Même si M. Tomender se dit qu'il ne faut pas parler de sentiments, il y a quand même une douleur et une tristesse parce que la fin d'un programme, c'est quand même des années d'investissement, des années sur lesquelles les salariés sont pleinement investis. C'est tout un outil industriel. C'est la tristesse.
On peut dire qu'il y avait un attachement de votre part et de l'ensemble de l'équipe, hein, de tous ceux qui ont travaillé sur ce mastodonte. C'était quand même un défi technologique extraordinaire.
Et oui, raison pour laquelle il y avait cet attachement, et vous l'avez dit, parce qu'un défi technologique extraordinaire, un avion, un quadrimoteur avec des tailles juste aussi extraordinaires. Donc c'est tout cet ensemble qui avait attiré autant de monde au bord des pistes pour son premier envol, autant de monde pour sa première livraison à Singapore Airlines, à cette compagnie qu'il avait reçue en premier. Mmh. Oui, ça a été un véritable attachement. Véritable pari à tout point de vue et qui en effet, comme ça a pu être dit, comme un Concorde, je crois que ça a été exactement le même sentiment qu'un Concorde. Cet avion-là restera, il marquera vraiment son histoire de la même façon.
Pour vous, c'est une sorte de gâchis au fond?
Pas vraiment, non. On peut pas parler de gâchis parce que je pense que il est arrivé trop tôt, il est arrivé trop tard. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il a permis de concurrencer et de montrer à Boeing qu'on était capable nous aussi de rentrer dans la gamme des gros porteurs. Jusque-là, ils étaient les seuls maîtres avec le 747. Mais il a permis également des grandes avancées technologiques. Il a permis de remettre en question notre façon de travailler et ce qui s'est réellement traduit par la suite sur des programmes comme l'A350 où on a su faire plus vite, mieux. Donc je pense que un programme comme l'A350 lui doit beaucoup.
Mmh. Du côté d'Airbus, on dit ce matin que tous les salariés qui travaillaient sur l'A380 seront reclassés. Vous n'avez pas d'inquiétude ?
Pas vraiment d'inquiétude, mais je pense qu'il va falloir quand même attendre les prochains jours, les réunions avec la direction, certainement des réunions au niveau européen, puisque tous les sites européens d'Airbus sont concernés par cette annonce. D'autres programmes, on l'a dit, d'autres programmes maintenant sont là et sont des programmes qui marchent bien, comme la 320, la 350, la 220 également. Je pense qu'on va rester confiant. Il faudra quand même aller jusqu'au bout du redéploiement et jusqu'en 2021, puisque certains de salariés devront accompagner ce programme encore pour les 2 ans à venir. Il ne faudra pas les oublier. Mm-hmm. Il faudra trouver ces volontaires, sachant que c'est toujours difficile, parce que vous savez que derrière, il n'y aura pas de suite. Donc, c'est tout cet ensemble qu'on discutera là, dans les prochains jours, tout en affichant quand même la volonté, en tout cas, nous, notre demande pour la CFE-CGC, que tout le monde trouve sa place demain dans Airbus, bien entendu.
Mm-hmm. Bien sûr, vous êtes à peu près 5 à 600 pour conclure à travailler à Toulouse sur les A380, oui. C'est ça?
Peut-être un peu plus sur Toulouse, environ 700 personnes, on va dire, en effet, sur Toulouse. Et je pense qu'il y aura également un sujet qui sera important, ça sera de bien vérifier que dans nos entités comme Stelia, par exemple, qui réalise les pointes avant à Méholt, les conséquences seront aussi bien prises en œuvre pour redéployer les salariés. Et puis, il restera derrière quand même tout un réseau de fournisseurs et de sous-traitants impliqués dans la réalisation de cet appareil.
On entend bien votre vigilance. Merci beaucoup, Françoise Valin, d'avoir été l'invitée d'RTL Midi. À bientôt. Il n'y a pas de fatalité. C'est avec ces mots que Muriel Pénicaud, la ministre du Travail, se félicite des bons chiffres du chômage. Avec une baisse de 0,3 points, il est tombé à 8,8% de la population active au quatrième trimestre 2018. C'est la première fois qu'il repasse sous la barre des 9% depuis 10 ans, c'est-à-dire avant la crise financière. La ministre considère que les ordonnances sur la loi travail ont fluidifié le marché. Dans un instant, le magot du convoyeur de fonds, 1 900 000 euros, ont disparu.
RTL Midi
avec Christelle Rebière.
Le convoyeur voleur est toujours entendu en garde à vue, mais quid du magot? Une partie des sacs qui l'avaient sorti du fourgon blindé manquent à l'appel, une grosse partie, même Jean-Alphonse Richard, puisque sur les 3 millions d'euros subtilisés, 1 million 9 sont introuvables.
Absolument, tout près de 2 millions d'euros évaporés, c'est ce qui apparaît après le décompte très minutieux effectué par les enquêteurs juste après l'arrestation d'Adrien Derbé à Amiens, de l'argent qui a vraisemblablement été emporté par un complice, un homme qui était associé au convoyeur et qui a réussi à prendre la fuite. Cette personne est actuellement recherchée. Peu d'informations sur ce complice. Dans tous les cas, aucune confidence faite à son sujet par le convoyeur qui, en garde à vue, nous dit-on, ne se montre pas bavard, préfère garder le silence. Les enquêteurs essaient toujours d'en savoir plus sur son environnement. Adrien Derbé n'est pas considéré comme un délinquant notoire, même s'il a déjà eu maille à partir avec la justice dans le passé pour des affaires de dégradation. Parmi ses fréquentations récentes figurent des personnes connues dans le milieu du banditisme. C'est peut-être là qu'a germé cette idée de détourner le fourgon blindé de la Loomis. Trois autres personnes, une femme et deux proches du convoyeur, sont également en garde à vue dans cette affaire.
Un soignant devenu maltraitant et qui gifle une pensionnaire de 98 ans dont il a la charge. Cette image insoutenable a été filmée par des caméras posées par la famille de la victime dans un EHPAD d'Arcueil dans le Val-de-Marne. Le soignant est en garde à vue, il a été mis à pied. Une réunion aura lieu cet après-midi avec l'ensemble des familles de résidents. Mais cette affaire, évidemment, les inquiète énormément. À l'image d'Evelyne, dont le mari souffre d'une maladie d'Alzheimer.
Mais c'est infâme. Mais ce sont des êtres humains. Ce ne sont pas des bêtes. Quand on entend ça, on peut s'imaginer le pire. Quand on sait qu'on a son résident qui est dans cet établissement. Moi, mon mari étant Alzheimer, je ne sais pas du tout qu'est-ce qui peut se passer. Parce qu'il est incapable de me dire est-ce que ça va ou ça va pas. Il y a des fois, il m'a dit écoute, j'ai mal à mon poignet. Maintenant, est-ce que c'est vrai? Est-ce que ce sont des hallucinations? Comment voulez-vous que je puisse détecter cette affaire? Je ne sais pas. Je suis très inquiète parce que je sens que mon mari, il se sent pas bien. Hier, il m'a dit c'est bizarre ici, c'est plus comme avant, c'est le bordel, qu'il me dit. Ce que je vais faire, je vais mener mon enquête. Il faut absolument être sur les lieux pour savoir qu'est-ce qui se passe. Il faut des réponses.
Voilà l'inquiétude d'Evelyne au micro RTL de Vincent Serrano. Et nous avons décidé dans RTL Midi de nous arrêter sur les conditions de vie souvent indignes de nos aînés dans les maisons de retraite médicalisées. Nous sommes en ligne avec Pascal Chanvert, président de l'association des directeurs au service des personnes âgées. Bonjour.
Bonjour.
Quand on entend évidemment ce qui vient de se passer à Arcueil, on a l'impression que la situation continue d'empirer.
Alors il y a deux choses. D'abord, la situation continue d'empirer dans les établissements et à domicile pour les personnes âgées en France. C'est un problème de fond. Si nous avons, en tant qu'association de directeurs, organisé une grève l'an dernier avec l'ensemble des organisations syndicales pour attirer l'attention de l'État sur ce sujet, c'est bien que la France a un retard considérable en matière d'aide aux personnes âgées à domicile comme en établissement. Pour autant, là, dans l'affaire précise d'Arcueil, on est dans un cas qui n'a rien à voir avec le malaise global. Là, on est manifestement, si les faits sont avérés, et je pense que les informations que nous avons sont exactes, on a affaire au dysfonctionnement majeur, grave et intolérable d'un individu qui s'est comporté de façon tout à fait ignoble. Et ça, c'est un cas tout à fait particulier qui n'a rien à voir avec les situations globales de l'aide aux personnes âgées en France.
On est bien d'accord, il ne s'agit pas de généraliser et de dire que toutes les personnes âgées sont maltraitées dans les EHPAD.
Bien entendu, ni dans les EHPAD, ni dans les services à domicile, pas plus.
Voilà, on est bien d'accord. Mais quand même, ce soignant-là, il a mis juste 1h45 pour venir voir cette dame. Et ça, c'est une réalité quand même. Tous les soignants disent qu'ils sont complètement débordés, qu'ils ont beaucoup
trop de personnes à s'occuper.
Ah oui, bien entendu. Bien entendu que la difficulté fondamentale dans notre pays, c'est que comme l'État et les pouvoirs publics ont accumulé du retard par rapport à nos voisins européens, on ne passe pas assez de temps auprès des personnes âgées à domicile, on ne passe pas assez de temps auprès des personnes âgées en établissement, et quand elles appellent pour être aidées, on vient les voir avec beaucoup trop de retard. La solution, elle est simple, il faut créer des emplois supplémentaires à domicile et en établissement, ça permettra de faire continuer à baisser le chômage, puisque je viens d'entendre que les chiffres étaient bons à cet égard, ouais. Mais il reste encore 2,5 millions de chômeurs, eh bien, on peut trouver des emplois, beaucoup d'entre eux, dans des services à domicile ou dans des établissements qui fonctionneraient mieux.
Mais créer des emplois supplémentaires dans certains établissements, il y a des établissements privés qui disent non, 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 nous, on n'a pas les moyens, alors qu'en fait, ils privilégient plus souvent leurs actionnaires que leurs pensionnaires.
Non, non, c'est pas le problème des établissements privés ni des services à domicile privés, c'est le problème de l'ensemble des établissements et des services. Parce que je vous rappelle que dans les services à domicile, dans les établissements, ce ne sont pas les directeurs qui décident du nombre de personnel, ce sont les pouvoirs publics. Donc, le manque d'infirmiers, le manque d'aides-soignants dans tous les services à domicile, dans tous les établissements de France, ils sont dus aux pouvoirs publics qui ne donnent pas les moyens permettant de les recruter.
Donc il faut embaucher, c'est ce que vous dites aujourd'hui à Agnès Buzyn. Merci beaucoup Pascal Chanvert d'avoir été l'invité d'RTL Midi.
Je vous en prie.
Merci. Enfin, figurez-vous que c'est le 14 février. Ce petit bouquet d'amour sonore vous était gracieusement offert à l'occasion de la Saint-Valentin par toute l'équipe d'RTL Midi. Et on retrouve Pascal Praud, je sens que ça va vous inspirer.
Ambiance aimer karaoké. Plus fort qu'être aimé.
Ah bah ça c'est la question du jour.
Bah je vous la pose. Aimer plus fort qu'être aimé, ça c'est une bonne question. J'ai écouté Alain Juppé, j'ai vraiment été très touché par ce qu'il a dit, d'abord par l'homme d'État qu'il est, mais vraiment ce qu'il a dit est intéressant, parce qu'on imagine qu'il quitte la mairie de Bordeaux après la séquence Gilets jaunes. L'esprit public est devenu délétère, a-t-il dit. Il a raison. Le discrédit des hommes et des femmes politiques, victime du tous pourri, il a raison. Dans ce climat général infecté par les mensonges des réseaux sociaux, la vie publique, l'esprit public sont difficiles à vivre et à porter. Il a encore raison. C'est terrible d'ailleurs, je trouve. On a le sentiment vraiment qu'il part précisément après ce qui vient de se passer à Bordeaux. Donc on pourra effectivement en parler entre 13h et 14h, comme nous pourrons évoquer la Saint-Valentin ce soir. Je vous regarde,
aimer,
vous me regardez.
Est-il plus fort qu'être aimé, bah, c'est la question, vous avez 4 heures.
C'est ce que disait Balavoine, je ne sais pas. On va poser la question aux auditeurs, qu'est-ce que vous en pensez?
Allez, on parle de météo, Patricia Charbonnier. C'est une magnifique journée d'hiver qui sent même un peu le printemps.
Ah oui, les températures sont 5 à 6 degrés au-dessus des normales de saison. Cet après-midi, 12 degrés par exemple à Dunkerque, 13 degrés à Paris comme à La Rochelle, 15 à Lyon et Marseille, 18 à Bayonne. Et c'est du plein soleil du nord jusqu'au sud. On a quand même le vent marin qui apporte un petit peu de grisaille près du golfe du Lion.
Et dire que ça va durer.
Oui, encore quelques jours avec ces conditions météo anticycloniques. Alors demain matin, encore des brouillards localement denses, encore quelques nuages bas, notamment sur les côtes bretonnes, près du golfe du Lion et le long de la Garonne, et une grisaille qui pourrait très localement persister dans l'après-midi. Mais vraiment, dans l'ensemble, ce sera une très très belle journée ensoleillée, avec des températures froides en matinée, encore quelques gelées, moins 2 degrés à Strasbourg, 1 degré à Lille, 3 à Paris comme à Toulon, 7 à Cannes, et de 11 à 19 dans l'après-midi. Donc c'est très doux, hein, jusqu'à 19 degrés demain après-midi à Clermont-Ferrand, 17 à Bordeaux comme à Lyon, 15 à Toulouse et à Bourges, 14 à Paris, 12 degrés à Rouen et 11 degrés à Strasbourg. Et c'est un très très beau week-end qui s'annonce, avec simplement quelques débordements nuageux du côté de la Manche, plutôt vers la Bretagne, et toujours quelques entrées maritimes près du golfe du Lion.
Merci Patricia.
Par tous les temps, auto-relaxez-vous avec First Stop, pneus et entretien de votre auto.
Dans un instant, le rappel des titres avec Bénédicte Tassard. RTL. Il est 13h.
Le tout info des auditeurs ont la parole sur RTL.
Avec vous, Bénédicte Tassard.
Bonjour. Bonjour. Samuel, 3 ans, ne respirait plus. Il a été sauvé par Valentin, un jeune policier de Villeurbanne qui vient de terminer son stage de gardien de la paix. 2 minutes interminables qui se terminent bien.
Vers 20h, on voit une foule qui sort en hurlant, en criant. Environ 70 personnes, donc d'origine roumaine. Et on voit un individu porter un enfant dans ses bras, en train de le secouer, d'essayer d'ouvrir sa bouche, de souffler dedans. Donc on comprend qu'il a un problème respiratoire. Moi, à ce moment-là, je prends l'enfant dans mes bras. Je constate qu'il n'est pas conscient, que son cœur bat, mais qu'il ne respire plus. Donc à ce moment-là, je commence à lui mettre 3 claques dans le dos, entre ses omoplates. Ensuite, je fais des compressions abdominales. Je constate que l'enfant ne respire pas, qu'il n'y a rien qui sort de sa bouche. Donc je décide de continuer et de poursuivre la procédure jusqu'à ce qu'il recrache. Sauf que la foule autour de nous ne comprenait pas pourquoi je mettais des claques dans le dos à l'enfant. J'essaie de leur expliquer rapidement que c'était pour l'aider. Et l'enfant s'est mis à pleurer. Et en passant ma main devant sa bouche, j'ai vu qu'il expirait. Donc à ce moment-là, je me soulageais qu'il respire encore une fois. À la fin, on est content, on rentre le soir et puis on se dit bon ben, on a peut-être contribué à sauver une vie et puis on a le sentiment d'avoir accompli quelque chose de bien.
Le policier sauveteur au micro RTL de Frédéric Perruche. Les larmes d'Alain Juppé qui dit adieu à la mairie de Bordeaux pour rejoindre le Conseil constitutionnel. C'est un crève-cœur, mais l'esprit public est devenu délétère, regrette l'ancien Premier ministre. Alain Juppé souligne aussi sa volonté de ne pas faire le mandat de trop. Du jamais vu en France, la pétition en ligne « L'affaire du siècle » a recueilli 2 100 000 signatures. Il reste maintenant 4 jours au gouvernement pour présenter un plan de lutte contre le réchauffement climatique. Sinon, 4 ONG attaqueront l'État en justice. Ces associations ont été reçues ce matin par Édouard Philippe. Cécile Duflo, à la tête de Oxfam France, regrette notamment que le Premier ministre ne s'engage pas sur la taxe carbone.
Aujourd'hui, le problème de ce gouvernement, c'est que son action n'est pas à la hauteur. Ses engagements ne sont pas tenus et son action n'est pas à la hauteur. Sur la taxe carbone, le sujet a été à l'ordre du jour de la discussion avec le Premier ministre qui a dit « Vous ne nous avez pas assez soutenus ». Mais si, nous avons même été, pour beaucoup d'entre nous, très support d'une taxe carbone. Mais une vraie taxe carbone qui marche, c'est celle dont l'argent est utilisé pour économiser de l'énergie, pour isoler des bâtiments, pour développer les transports en commun, pour développer l'usage du vélo. Ça va de pair, c'est pas seulement une ressource financière supplémentaire.
Cécile Duflo, micro RTL de Virginie Garin. Le gouvernement répondra dans les délais impartis, assure Matignon. 400 dauphins retrouvés échoués sur la côte atlantique depuis début janvier, notamment en Vendée, en Charente-Maritime. Un phénomène alarmant, les mammifères marins paniqueraient devant les filets de pêche des bateaux. Les bons chiffres du chômage aujourd'hui, sous la barre des 9% à 8,8% de la population active au dernier trimestre 2018. Le plus bas niveau de chômage depuis 2009, selon l'INSEE. Une statistique un peu incompréhensible pour l'économiste Marc Toiti.
C'est une bonne nouvelle, hein, le taux de chômage qui baisse, mais on a du mal à s'expliquer d'un point de vue économique. Alors c'est vrai que, généralement, il y a 6 mois de décalage entre l'activité et puis le chômage. Donc là, on pourrait dire que la baisse du chômage s'explique par le petit embellie qu'on avait début 2018. Sauf qu'entre-temps, on a une très forte baisse de la croissance, et pourtant le chômage baisse de 0,3 points sur un seul trimestre, et ce qui est quasiment du jamais vu. Donc le chômage est à 8,8%, c'est bien sûr une bonne nouvelle, mais malheureusement, je pense qu'on repassera au-dessus des 9% au courant de l'année 2019.
Marc Toiti avec Martial Liu pour RTL. C'est l'heure de notre point quotidien à la Bourse de Paris avec Sylvie Aubert d'Investir les Échos. Bonjour Sylvie.
Bonjour Bénédicte.
Et c'est aussi grand soleil à la Bourse.
Et oui, après 3 séances de hausse d'affilée, eh bien le marché parisien continue sur sa lancée et vient de dépasser les 5100 points, plus haut depuis 3 mois. À Wall Street aussi, le Dow Jones progresse grâce à l'optimisme autour des discussions commerciales sino-américaines. Et les opérateurs apprécient que les prix à la consommation soient restés sages aux États-Unis au mois de janvier. Cela devrait inciter la Réserve fédérale à ne plus remonter les taux d'intérêt. Le rejet du budget en Espagne et la panne de croissance de l'Allemagne ne sont donc pour l'instant pas du tout prises en compte par le marché. Ce matin, les boursiers ont analysé un nombre incalculable de résultats 2018 de la part d'entreprises du CAC 40. Ils ont donc fait le tri. Les bonnes surprises dominent. Legrand gagne près de 8%, suivi par Schneider, plus 6%. Airbus progresse de 4,5%. Les solides résultats du groupe et l'arrêt de l'A380 sont tout autant appréciés.
Merci Sylvie. Sylvie Aubert d'Investir les Échos. Une pause. Et dans un instant, les auditeurs ont la parole. Pascal Pro est prêt. Il vous attend au 32-10.